Ça marche. On va donc lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, Sylvain va prêcher sur Proverbes 4, versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal.
Merci Karine. Donc on continue notre série estivale dans les Proverbes. Et au départ, entre les anciens, on se disait de choisir un thème, une thématique dans les Proverbes. Et ce verset, Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Eh bien, le Seigneur l'a gravé dans mon cœur dès mon jeune âge. Enfin, ça fait papy de dire ça. Je reconnais un peu, mais c'est pourtant vrai. Et donc, spontanément, ce passage m'est venu à l'esprit, voilà, pour cet après-midi. Et je vais commencer par vous poser une question. Maintenant, petit comité, on en profite. Là, j'attends pas de réponse, mais c'est à réfléchir. Qu'est-ce que vous protégez le plus ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, pour certains, je pense que peut-être leur maison. Avec la grêle, peut-être c'est votre voiture. Aujourd'hui, on protège nos comptes bancaires avec des mots de passe très, très compliqués. Nos téléphones sont verrouillés par de la biométrie. On installe des alarmes, des caméras, des pare-feux antivirus pour nos ordinateurs, etc. etc. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite protéger ce que nous pensons avoir de la valeur. Et à mon avis, c'est nécessaire. Avec tout ce qui se passe, c'est bien nécessaire de se protéger. Alors, je vous pose une deuxième question. Quand avez-vous pris pour la dernière fois des mesures pour protéger votre cœur ? Et là, je ne parle pas d'un souci cardiaque, bien sûr, pour lequel il faut prendre soin également. Non, je parle du cœur au sens de où la Bible en parle. Vos pensées, vos désirs, vos motivations, votre vie intérieure. Et on y pense, à mon sens, pas assez souvent. Et pourtant, Salomon nous dit dans ce texte, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pourquoi ? Parce qu'il dit ensuite, « De lui viennent les sources de la vie. » Autrement dit, tout ce que nous vivons à l'extérieur trouve sa source à l'intérieur. Et j'aime beaucoup le ton de ce passage. Parce qu'on voit que ce n'est pas un général qui donne des ordres. On voit que ce n'est pas un juge qui vient condamner. Mais c'est un père qui, à plusieurs reprises, dans les chapitres, les premiers chapitres des Proverbes, on a déjà lu ça ensemble, on a déjà parlé. Ça marche, pardon. Je vais aller trop vite. Un peu de peine, ouais. Voilà. Si jamais je te fais signe, si ça bug. Donc un père qui parle à son fils, régulièrement, Salomon dit « mon fils ». Et quand il dit ça, on entend toute son affection, son expérience, parce qu'il sait que son fils rencontrera des difficultés, des tentations, des déceptions, des choix difficiles. Alors en sorte, il lui dit, si je pouvais te transmettre une seule chose avant que tu poursuives ta route, ce serait celle-ci. Veille sur ton cœur, parce que toute ta vie en dépend. Et il me semble que ce conseil est toujours actuel. Parce que notre société nous répète exactement l'inverse. Elle nous dit « suis ton cœur ». Écoute ton cœur, ou encore fais confiance à ton cœur. Eh bien, la Bible, elle ne dit jamais ça. La Bible, elle dit garde ton cœur. Pourquoi ? Parce que le cœur est précieux, mais en même temps, il est vulnérable. Le cœur est la source de toute la vie. Relisons ces trois premiers versets, donc les versets 20 à 22, je vous les relis. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout le corps. » Ça, c'est intéressant de remarquer que Salomon ne commence pas par parler de protection. Salomon, il commence par parler d'écoute. Parce qu'avant de garder son cœur, ben, il faut le nourrir. Parce qu'un cœur ne reste jamais vide. Chaque jour, il est nourri par ce qu'il écoute. La vraie question, ce n'est pas « mon cœur est-il nourri ?» en interrogation. Mais la vraie question est « par quoi est-il nourri ?» Et bien sûr, les réseaux sociaux, les informations, nos inquiétudes ou la parole de Dieu façonnent progressivement notre cœur, notre manière de penser. Et c'est pour ça que Salomon nous invite d'abord à écouter, avant même de garder. Et là, il utilise trois verbes. Écoute, regarde et garde. Trois sens, les oreilles, les yeux, le cœur. Et là, il ne s'agit pas d'une écoute distraite. J'espère que ce n'est pas le cas cet après-midi non plus. Il s'agit d'une parole qui descend dans les profondeurs de notre être. Et c'est en préparant aussi, je me suis posé pas mal de questions. Hein. Combien de temps est-ce que je laisse Dieu parler à mon cœur, comparé au temps que je laisse le monde parler à mon cœur? Et je vous confie que la réponse, elle n'est pas très confortable. On aime bien protéger notre santé physique. On fait attention à notre alimentation, on essaye de dormir suffisamment, on fait parfois un peu de sport. Et c'est OK, c'est une belle chose. Mais est-ce qu'on prend le même soin, on prend même le même soin de notre vie intérieure? Il y a beaucoup de versets qu'on connaît, hein, que je vais citer cet après-midi, mais quand on pèse les mots, Jésus dira plus tard, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre âme aussi a besoin d'être nourrie. Et j'aime beaucoup cette promesse du verset 22 qu'on vient de lire. La parole apporte la vie et la guérison. Elle ne nourrit pas uniquement notre intelligence. Elle rejoint nos blessures. Elle rejoint nos découragements, nos peurs, nos fatigues. Et elle nous ramène sans cesse vers celui qui est la parole vivante. Et dans l'évangile de Jean, vous connaissez ça aussi, Jean dit la parole, à savoir Jésus-Christ, est devenu chair. Finalement, quand on ouvre la Bible, eh bien, on ne rencontre pas un livre, pas uniquement un livre. On vient rencontrer Jésus-Christ. Et plus notre cœur est nourri de Christ, plus il sera capable de résister à ceux qui cherchent à le détourner de Dieu. Salomon continue avec le verset 23. Mais vas-y, tu peux passer à la suivante. Avec ce fameux verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Alors, on revient un petit peu sur ce qu'est le cœur au sens biblique. Lorsqu'on entend ce mot, nous, on pense spontanément aux sentiments. Hein. Il y a pas mal d'expressions. J'ai le cœur brisé. Je l'aime de tout mon cœur. Et là, on est dans les sentiments. Mais la Bible, c'est plus profond que ça. Le cœur, c'est plus que ça. Pour les Hébreux, le cœur, c'est le centre de commandement de la personne. Parce que c'est là que naissent nos pensées, nos désirs, nos motivations, notre volonté et même nos décisions. Le cœur, C'est un peu le cockpit d'un avion. Les passagers ne le voient pas, mais c'est lui qui dirige tout le reste. Et si le cockpit est pris par quelqu'un d'autre, eh ben, je donne pas cher de votre voyage. Tout l'avion est en danger. Eh bien, notre cœur, c'est ce cockpit. C'est pour ça que Salomon nous demande pas d'abord de protéger notre réputation, pas d'abord de protéger notre argent ou même notre ministère. Il nous dit d'abord, garde ton cœur. Et il continue, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et là, il met des priorités. Il y a beaucoup de choses importantes dans notre vie. Notre famille, notre santé, travail, notre témoignage, notre église. Mais il dit, plus que toute autre chose. Autrement dit, s'il y a une chose sur laquelle tu ne dois jamais te relâcher ta vigilance, c'est celle-là. Pourquoi ? Parce qu'il c'est une vérité que nous oublions souvent. On passe beaucoup de temps à gérer les conséquences et très peu de temps à gérer les causes. Je prends un exemple. Imaginons un arbre malade qui produit des fruits malades. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut arracher les fruits, mais si la maladie est dans les racines, les prochains fruits seront identiques. Et je me suis vraiment reconnu dans ce texte. Parce que souvent, j'ai, ou parfois, bon, peu importe, tendance à vouloir régler les symptômes alors que Dieu veut toucher les racines. Je demande au Seigneur de changer mes circonstances alors qu'il veut d'abord transformer mon cœur. Et on essaye de changer les fruits. On essaye de changer nos paroles, notre comportement, nos réactions, nos habitudes. Mais Dieu travaille d'abord les racines. Il commence au cœur. Et c'est exactement ce que Jésus dira plus tard, quelques siècles plus tard. Il expliquera que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort de son cœur. Salomon continue, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Ah, c'est une belle image, cette notion de source. Imaginez une source de montagne. Si l'eau est pure, si la source est pure, toute l'eau qui va sortir est arrosée, irriguée, est pure. Si la source est polluée, tout ce qui suivra sera touché. Et Salomon dit, votre cœur est cette source. Si la source est polluée, tout ce qui suivra sera pollué. Nos paroles, notre manière d'aimer, notre façon de gérer un conflit, notre patience, notre générosité, notre manière de conduire, notre façon de répondre à notre conjoint, à nos enfants, tout sera pollué. Et cette vérité, elle est parfois difficile à accepter. Quand je m'énerve ou je m'emporte, j'aimerais tellement dire bah, « c'est à cause de lui ». Quand je manque de patience, bah, c'est parce que j'ai eu une mauvaise journée. Quand je parle durement, bah, alors, tu m'as poussé à bout. Alors je ne dis pas que les circonstances n'ont pas d'influence, bien sûr qu'elles l'ont. Mais Jésus nous invite à aller plus loin. Et en Matthieu 12, 34, on lit ce que dit Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Autrement dit, les circonstances ne créent pas ce qu'il y a dans mon cœur. Au contraire, elles le révèlent. Les épreuves font la même chose, souvent. Elles révèlent ce qui habite réellement dans notre cœur. Et je dois vous confier aussi qu'en préparant cette prédication, ben, je ne me sens pas au-dessus de ce texte. Au contraire, il m'interroge, il m'oblige à regarder et considérer mon propre cœur. Qu'est-ce qui l'occupe au quotidien ? Qu'est-ce qui prend le plus de place ? Mes inquiétudes ? Mon besoin de contrôler les choses ? mon orgueil, mes projets, etc., ou bien la présence de Dieu. Je crois que c'est une question que chacun de nous peut se poser ce soir. Et cette question, elle n'est pas là pour nous décourager, au contraire, pour laisser Dieu nous montrer avec amour ce qu'il veut transformer. Parce que Dieu ne met jamais le doigt sur une blessure pour nous humilier. Au contraire, il le fait pour nous guérir. Et c'est ici que l'Évangile devient une merveilleuse nouvelle. Parce que si Dieu me disait simplement « garde ton cœur », ben, j'arrêterai pas de répondre ben, « j'essaye » ou « j'ai essayé, mais j'ai échoué ». Parce que qui d'entre nous peut dire qu'il a toujours gardé son cœur pur ? Qui n'a jamais laissé entrer la jalousie, la colère, la convoitise, l'orgueil ? Personne. Et c'est pourquoi la Bible, elle ne s'arrête pas au proverbe. Des siècles plus tard, Dieu fait une promesse extraordinaire par le prophète Ézéchiel. Parce que Dieu, il ne fait pas de la chirurgie esthétique. Il veut faire une transplantation. Il ne repeint pas notre vie. Quand vous repeignez un mur fissuré, hein, peu de temps après, on revoit la fissure. Hein. Non, Dieu, il veut transformer notre être intérieur. Et par la bouche du prophète Ézéchiel, il dit... Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Voilà l'expérience chrétienne. Dieu ne nous dit pas seulement « débrouille-toi pour garder ton cœur ». Il vient lui-même le renouveler. Parce que par la grâce de Jésus-Christ, on ne lutte pas pour mériter un cœur nouveau. Par contre, on lutte à partir d'un cœur nouveau que Dieu nous a donné. Et ça, ça change tout. Alors, si le cœur est source de toute notre vie, alors, je me suis posé la question, comment savoir si mon cœur est bien gardé ? Eh bien, Salomon répond en regardant trois domaines très concrets de notre quotidien. Nos paroles, notre regard et notre marche. Est-ce que c'est ce que nous allons découvrir maintenant dans les derniers versets de ce passage. Et j'aime bien parce que c'est vraiment concret. Alors après avoir parlé du cœur, Salomon, il ne reste pas dans des grandes idées. Il descend dans notre quotidien. Il ne parle pas de nos émotions. Il ne parle pas de nos connaissances, ni même de nos activités religieuses. Il parle de notre bouche, de nos yeux et de nos pieds. Et regardez la progression dans ce texte. Le cœur est invisible, mais il laisse toujours des traces visibles. La bouche, elle révèle le cœur. Les yeux orientent le cœur. Et les pieds suivent le cœur. Autrement dit, notre manière de parler, de regarder et de vivre, c'est de ça qu'il veut nous parler maintenant, Salomon. Parce qu'un cœur bien gardé finit toujours par se voir. Et Jésus, je le répète, dira exactement la même chose, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur finit toujours, toujours par apparaître à l'extérieur. Ouais, je vais le prendre là, j'ai oublié. Merci. Alors d'abord, verset 24, il nous dit « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » La première chose que Salomon observe, ben, c'est notre bouche. Et ça, c'est très parlant, sans mauvais jeu de mots. Il n'y a rien qui révèle plus notre cœur que nos paroles. En quelques secondes, on peut encourager quelqu'un. Mais en quelques secondes, on peut le décourager. On peut relever une personne ou la blesser profondément. Et le livre des Proverbes, il reviendra souvent sur ce thème. Je vous en donne un exemple. En Proverbe 18, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est roi ou quelle responsabilité. Et je me demande parfois si quelqu'un enregistrait toutes mes paroles pendant une semaine, que découvrirait-il ? Est-ce qu'il va y trouver de la reconnaissance ? De la paix, de la douceur ? Ou beaucoup de critiques ? De l'impatience ? De l'amertume ? Et il y a une petite phrase qui est tellement facile à dire. « Ah, ben moi, je suis comme ça !» Mais Dieu ne veut pas nous en laisser là, nous rester, qu'on en reste là. Il veut aller beaucoup plus loin avec nous. La Bible nous dit « Regarde ton cœur !» Parce que les paroles, ce sont souvent que les fruits. Les racines sont ailleurs. Et dans nos conversations, que ce soit tout à l'heure, après la célébration, en famille, sur les réseaux sociaux, etc., la question, ce n'est pas seulement « est-ce que c'est vrai ?» mais « est-ce que cela édifie ?» Est-ce que cela honore Christ ? Est-ce que cela fait grandir l'autre ? C'est ça, une bouche bien gardée. Et Paul, il met la barre très haute, parce que dans Éphésiens, il nous dit « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement celle qui est bonne et propre à édifier. » Waouh ! Après la bouche, Salomon va nous parler des yeux. Il poursuit au verset 25 « Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » Ben ouais, nos yeux, bien souvent, ils dirigent notre cœur. On vit dans une génération où tout cherche à attirer notre regard. On en est tous conscients. Les écrans, publicités, vidéos, comparaisons permanentes, les convoitises, même les distractions. Et Salomon, il pourrait dire aujourd'hui, fais attention à ce que tu regardes, car ce que tu regardes finit souvent par orienter ce que tu désires. Et on sait tous que c'est vrai. Combien de jalousies commencent simplement par un regard ? Combien de convoitises ? Combien de découragements ? On regarde la réussite des autres, leur famille, leur maison, leurs vacances, leur ministère. Et peu à peu, notre cœur se remplit d'insatisfaction. À l'inverse, la Bible, elle nous invite à fixer nos yeux ailleurs. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Ayons les regards sur Jésus ». Hébreux 12. Ça, ce n'est pas pour qu'on ignore le monde, mais parce que c'est en regardant Christ que notre cœur retrouve la bonne direction. On passe parfois des heures devant nos écrans, et quelques minutes à regarder Christ. Alors, il ne faut pas être surpris. Si nos cœurs ressemblent davantage à ce que nous regardons toute la semaine qu'à celui que nous adorons le dimanche. Salomon, il continue avec nos pieds. Verset 26-27. Fais une route droite pour tes pieds, ne dévie ni à droite ni à gauche. Et c'est vrai que la Bible, elle décrit souvent la vie chrétienne comme une marche. Une marche, ça ne se fait pas en un seul pas. Une marche, elle ne se construit pas après pas. Et ça m'encourage. Parce qu'en fait, les grandes chutes spirituelles arrivent rarement d'un seul coup. C'est des petits écarts qui vont se cumuler. Un compromis, puis un deuxième, puis un troisième. Puis un jour, on se retourne et on demande « Comment est-ce que j'en suis arrivé là ?» Mais l'inverse est également vrai. La fidélité, elle se construit aussi un pas après l'autre. Une prière, un acte d'obéissance, un pardon accordé, etc. Parce que c'est Dieu ainsi qu'il façonne notre vie. C'est ainsi que Dieu façonne notre vie, lentement, mais profondément. Et c'est là que l'Évangile devient indispensable. Parce que si nous sommes honnêtes, aucun de nous peut dire « mon cœur est toujours resté parfaitement pur ». On a tous laissé entrer des choses qui n'auraient jamais dû y trouver leur place. L'Évangile nous annonce cette bonne nouvelle. Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous donner des conseils pour mieux vivre. Il est venu nous sauver. À la croix, il a porté notre péché. À la résurrection, il nous ouvre une vie nouvelle. Et par son esprit, il accomplit cette promesse d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pour ça que le chrétien ne garde pas son cœur tout seul. Il le confie chaque jour à son Seigneur. Et c'est comme Paul l'écrit aux Philippiens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'aime bien ce verset gardé. Parce que finalement, celui qui nous demande de garder nos cœurs, c'est aussi celui qui promet de le garder avec nous. Et Salomon, il ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être très, très vigilant. Et je voudrais terminer avec une question, une autre question. Et ce n'est pas une question pour votre voisin. C'est une question pour chacun de nous. Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans mon cœur aujourd'hui ? Est-ce la peur, l'amertume, la recherche de reconnaissance, l'argent, le contrôle, ou bien le Seigneur ? Parce que tôt ou tard, ce qui remplit notre cœur finira par remplir notre vie. Cette semaine, certains devront prendre une décision importante. D'autres devront pardonner. D'autres encore vivront une épreuve. Certains auront une tentation à combattre. D'autres une parole difficile à prononcer. Mais dans chacune de ces situations, il y a toujours le même enjeu. Qui gardera mon cœur ? Alors, j'aimerais qu'on reparte pas seulement avec un commandement, garde ton cœur, mais repartons surtout avec cette promesse, Dieu est capable de nous donner un cœur nouveau et de transformer et de le garder. Et j'aimerais qu'on s'approprie cette prière de David dans le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé, bien disposé. Amen. Et avant de partager la Sainte Cène, j'aimerais qu'on garde encore quelques instants de silence devant Dieu. Parce qu'on vient d'entendre cette exhortation de Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose. La bonne nouvelle de l'Évangile, et que Jésus n'est pas venu pour des personnes qui ont toujours parfaitement gardé leur cœur. Il est venu pour des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est précisément ce que nous allons célébrer dans un instant. Mais avant de prendre ce repas, je vous propose qu'on prenne un temps pour prier ensemble. On peut demander au Seigneur, qu'est-ce qui cherche aujourd'hui à gagner mon cœur ? Est-ce qu'il y a une amertume que je garde, une inquiétude que je refuse de lui confier, un péché que je minimise, une relation à restaurer ? Et puis on peut ajouter cette prière de David que nous venons de lire. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je propose un temps de prière en commun et je conclurai. Seigneur, merci parce que tu connais notre cœur mieux que nous-mêmes. Merci parce que tu ne nous rejettes pas lorsque tu découvres nos faiblesses. Tu viens même les guérir. Merci pour Jésus-Christ qui a porté notre péché, qui nous donne un cœur nouveau et qui continue jour après jour à garder nos cœurs. Je prie pour que ce repas nous rappelle cette grâce et qu'en repartant d'ici, nous puissions vivre avec ce désir renouvelé de garder notre cœur, parce que notre cœur t'appartient. Amen. Je vous invite, quand vous le souhaitez, à venir partager ce repas, le pain et la coupe. Au préalable, je vais lire 1 Corinthiens 11, 23, 26. Voilà, fiché. Ouais. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est vrai, chaque fois que nous prenons ce pain et cette coupe, nous proclamons que notre espérance ne repose pas sur la qualité de notre cœur, mais sur l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. À la croix, il a porté notre péché, il a porté nos échecs, il a porté tout ce que nous avons laissé entrer dans nos cœurs. Et par sa résurrection, il nous donne une vie nouvelle, un cœur nouveau. Le pain que nous allons partager nous rappelle que le corps de Christ est livré pour nous. Et la coupe nous rappelle la nouvelle alliance conclue par le sang de Jésus, une alliance dans laquelle Dieu ne nous promet pas seulement le pardon des péchés, mais il promet aussi de transformer notre cœur. Alors prenons ce repas avec reconnaissance en mémoire de notre Sauveur, comme vous le souhaitez. Pour moi,